Les enfants de Chronos. Bonjour à tous. Nicolas Bilot, archéologue, vous présente aujourd'hui le château d'Amartin en Goëlle. Dans un pays que l'urbanisme tend à faire disparaître lentement, au cœur d'une terre que Jean Racine tenait parmi les plus belles de France, et au milieu d'un bourg qui fut la capitale d'un comté très célèbre au Moyen-Âge, se dressait autrefois le château de Dammartin en Goëlle. Il est cette fois question, nous l'avons dit, d'un château comtal. Mais qui étaient les comtes de Dammartin ? La première maison, il faut comprendre la première famille ou le premier lignage, la première maison donc titulaire de la charge de comte de Dammartin, et la famille de Dammartin évidemment. Manassès, Eudes, mais surtout au début du XIIIe siècle, Renaud puis Mathilde de Dammartin s'illustreront comme des personnages de premier plan dans la politique royale française, mais pas uniquement. Songez donc que Renaud de Dammartin sera également comte d'Aumale, comte de Boulogne, comte de Martin. D'abord fidèle du roi, puis renégat lorsqu'il offrira son épée à l'anglais Jean sans terre. Il se positionnera même comme un des adversaires les plus terribles du roi de France Philippe Auguste à Bouvines en 1214. Le roi l'emprisonnera d'ailleurs jusqu'à son suicide et il mariera la jeune Mathilde, la fille de Renaud, à son propre fils Philippe Urpel, qui était lui-même déjà comte de Clermont en Beauvaisis dont nous avons déjà parlé. En bref, Dammartin est lié à la couronne par sa proximité géographique et dès le XIIIe siècle, par le sang. Plusieurs autres maisons se succéderont, dont par exemple l'illustre maison de Trie au XIVe siècle, ou celle tout aussi importante de Nanteuil au XVe siècle, sous le règne de Charles VII. C'est par eux, par mariage, que le terrible capitaine de guerre Antoine de Chabannes devient seigneur de Dammartin à son tour. Rappelons que, s'il fut compagnon de Jeanne d'Arc, il se fit surtout une renommée comme chef de troupe de Soudard, une troupe d'écorcheurs, comme on les appelait alors, qui ravagea bon nombre de terres, de villages et d'habitats isolés. À partir de son mariage à Marguerite de Nanteuil, dame de Dammartin, il se range et servira fidèlement Charles VII, puis Louis XI et Charles VIII, même si certaines années furent compliquées avec le roi Louis. C'est avec les descendants d'Antoine, notamment Jean, puis Antoinette, que se conclura lentement le Moyen-Âge à Dammartin. Les châteaux se succéderont également à Dammartin, car la localité semble avoir toujours été un enjeu dans les guerres féodales. Dès le XIIe siècle, le château de Dammartin a une place prépondérante que, malheureusement, les vestiges actuels ne permettent pas d'imaginer. Situé à l'est de la vieille ville, derrière l'église, mais proche d'elle comme souvent d'ailleurs, le vieux château profite d'une énorme butte naturelle qui n'a d'équivalent dans la région qu'à Béthisy-Saint-Pierre peut-être. Elle a été isolée, complètement, par le surcreusement d'un fossé, et elle a certainement été terrassée pour organiser au mieux la plateforme qui accueillera la résidence. Ajoutons enfin que, du haut de la butte, les sires de Dammartin dominent d'environ 70 mètres la plaine environnante. Une belle position. Le château avait déjà servi de fortification au comte Manassès en 1031, alors qu'il avait pris le parti de la reine Constance contre le roi de France Henri. C'est donc que le site était solide. Rien ne permet de savoir s'il était encore entièrement de terre et de bois, ou s'il présentait des parties maçonnées déjà. De même, lors du siège de 1112, où Louis VI prit le château au comte Hugues II, qui avait rejoint quant à lui le parti champenois, le château est méconnu. En 1183, nous n'avons pas plus d'informations sur son architecture alors que le château est détruit entièrement par Philippe d'Alsace, le comte de Flandre ennemi du roi Philippe Auguste. Le roi de France vengea l'affront, mais ne fut pas prompt à rendre sa forteresse au bon sire Albéric de Dammartin, qui dut attendre jusqu'en 1197. Il n'en fallut d'ailleurs pas davantage pour que ce dernier Albéric aille s'installer en Angleterre et abandonne le parti de France. Son fils, le Renaud que nous avons évoqué plus haut, en garda certainement un petit peu de ressenti et de rancœur, bien qu'il restât au service du français. Ils se brouillèrent tout de même en 1211, et Philippe Auguste vint prendre le château de Renaud peu après. Entraînement à la prise, à nouveau qu'il orchestra en 1214 suite à la bataille de Bouvines. Cette fois, le roi de France s'empare de la terre pour punir le rebelle. Il la pille, puis il l'offre à son fils, Philippe Urpel, qui était de toute façon marié à la fille de Renaud. Après 5 sièges donc, en 200 ans, les 13e et 14e siècles seront relativement calmes pour la place de Dammartin. On note même, entre 1327 et 1375, des travaux importants au château commandité par Jean III de Trie. Ici encore malheureusement, architecturalement, on ne sait rien de ou presque. En 1425, alors que le site est passé au sire de Nanteuil, en pleine guerre de Cent Ans, les Anglais du duc de Bedford, Jean de Lancastre, prennent encore une fois le château. 6 sièges donc au moins lorsqu'arrive Antoine de Chabannes. Lui fait entièrement rebâtir le château de Dammartin à partir de 1468. Et, choix curieux dans notre région de Belle-Pierre, Antoine de Chabannes prend le parti de le construire en briques. On nous dit même que tout est en briques et que seuls les encadrements étaient en pierre de calcaire. C'est intéressant car il s'agit certainement d'un choix esthétique fort, dans une période où les grands princes avaient fait œuvre de mécènes raffinés, très attentifs, très consciencieux. Même les plus guerriers, même les plus virils d'entre eux, même les plus violents, semblaient alors devoir montrer que les arts ne leur échappaient pas. Les seigneurs et leur entourage, qui, comme Antoine de Chabannes, avaient eu un destin glorieux les ayant propulsés au devant de la scène politique, avaient, au contact des grands princes, appris et pris goût aux belles choses et donc à la belle architecture. À moins que le fait de construire un château raffiné n'était qu'un calcul politique d'Antoine de Chabannes, c'est possible. Toujours est-il que le parti de la brique sur un château qui est à ce moment en limite des pays de France et du Valois n'était vraiment pas courant. Alors, puisqu'aujourd'hui il y a peu à voir, que peut-on dire de l'architecture de ce château ? Eh bien, peu de choses, mais quelques éléments tout de même. Quelques fondations peuvent encore paraître timidement visibles, ici et là, sur le site, et les puissants fossés larges de 20 mètres se devinent sans problème. Mais l'essentiel de ce qui est rapporté par d'anciens auteurs nous raconte ceci. Le château de Chabannes était un pentagone irrégulier, forme probablement héritée des châteaux précédents d'ailleurs, qui est due en fait à la forme de la butte. Il avait une tour d'accès à pont-levis au nord-ouest, ouvrant sur la cour. Dans celle-ci, on trouvait un puits, dont une grosse roche marquait encore l'emplacement il y a quelques années. On y trouvait au centre de la cour une chapelle indépendante. Et en fond de cour, à l'est, le long de l'enceinte, le logis du maître. C'était un logis à 2 niveaux au moins, disposé sur pas moins de 4 niveaux de cave. Sur un autre mur, un bâtiment pouvait compléter le logis et accueillir en même temps une partie des espaces techniques, notamment la cuisine, et il ouvrait lui aussi sur un réseau de caves de plusieurs niveaux. Enfin, encadrant des hauts remparts aménagés, le site présentait des tours aux angles, adaptées à l'artillerie à poudre. C'est d'ailleurs intéressant, ce détail, car c'est peut-être une des raisons du choix de la brique plutôt que de la pierre. Chabannes, en bon capitaine de guerre, savait fort bien les dégâts que faisait cette nouvelle artillerie sur les blocs de calcaire, et le choix de la brique, où la proportion de mortier est donc plus forte, absorbait beaucoup mieux les chocs. Évidemment, les nombreuses caves dont j'ai parlé, qui sont aujourd'hui la plupart effondrées, bouchées et inaccessibles, ont immédiatement fait naître à Dammartin de nombreuses légendes sur les souterrains de Dammartin. On dit qu'ils permettaient de faire se relier les villages entre eux, voire même les châteaux. Alors soyons clairs, s'il est recevable géologiquement que les carrières de la butte aient été transformées en boyaux de communication, il faut cependant raison garder quant à cette idée de longs souterrains sur plusieurs centaines de mètres, voire même sur plusieurs kilomètres. Rappelons que, malgré les légendes tenaces à propos des souterrains des châteaux, et malgré les témoignages des grands anciens, rien ne le prouve jamais. Dans tous les cas, après avoir connu une petite dizaine de sièges durant les 4 siècles du Moyen-Âge, le château de Dammartin finit par rentrer dans le domaine des Montmorency, puis des Bourbons-Condé. Eux n'y viendront pour ainsi dire jamais. Mais son destin continua tout de même d'être tragique. puisqu'il fut une fois encore l'objet de coups de main dans le contexte des guerres de religion en 1589-1590, puis il a été une première fois démantelé en 1632 sur ordre de Louis XIII qui souhaitait punir Montmorency, s'en suivant une seconde démolition en 1810 et une lente désagrégation continue tout au long du XIXe siècle. Alors, s'il n'y a aujourd'hui plus rien que l'esplanade et la topographie pour rendre hommage à la belle forteresse des Sires de Dammartin dans la capitale de Goëlle, rien ne vous interdit pour autant d'en découvrir l'histoire dans le détail, car elle est digne des plus belles séries télévisées, et elle est, elle, bien réelle. Et elle dépasse bien souvent la fiction.